Programme spécial, cause commune, radio active sur Fukushima Daiichi et le nucléaire. Bonjour, dans le cadre de la semaine autour de Fukushima, aujourd'hui nous nous intéressons à la politique du nucléaire au Japon et en France. Et donc cette émission a été préparée par Gianni de l'émission Vive la Sociale, qui ne peut pas être malheureusement présent avec nous aujourd'hui. Ça a été également préparé par nous-mêmes, Julia et Laure. Charles est à la technique et merci à lui. Et on va aussi remercier Nadège, grande coordinatrice de cette initiative. Et pour cette émission, nous recevons en studio Anne-Marie et Bernard qui font partie du comité contre l'ordre atomique. Bonjour à vous.
Et au téléphone.
Et au téléphone, je n'oublie pas, Martial Château, de sortir du nucléaire, bien sûr. Merci.
Alors, l'accident le plus grave de l'histoire de l'atome civil, après celui de Tchernobyl en 1986, accident qui met en pièce la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, au Japon, dérange. Cet accident remet en question des connaissances qu'on croyait acquises. L'énergie nucléaire, qui a été présentée comme la solution à tous les problèmes, est un enfer, comme nous pouvons le lire dans les blogs sur Fukushima 7 ans après. Un enfer pour les populations civiles qui ont subi l'effet nucléaire en 1945, un enfer pour les personnes contaminées autour des mines d'uranium, un enfer pour ceux qui y travaillent, un enfer pour les populations sur d'immenses territoires suite aux accidents, entre guillemets, et aux catastrophes nucléaires, tel que nous l'avons entendu sur Parole commune radioactive sur les conséquences humaines de la catastrophe de Fukushima. Sur ces mêmes antennes, à des fréquences paris plurielles, évidemment. Un enfer pour les gens qui ont des cancers à cause qu'ils vivent près d'une centrale nucléaire prétendument propre. Un enfer pour des milliers de travailleurs de TEPCO et des sociétés de sous-traitance qui gèrent, toujours entre guillemets, au mieux les ruines de la centrale de Fukushima Daiichi. Depuis le début de la crise, on parle des 40 000 à 50 000 travailleurs qui évoluent sur les sites très radioactifs. Un enfer pour les réfugiés nucléaires que le gouvernement japonais incite à revenir vivre dans les territoires contaminés. 7 ans après la catastrophe, se déroule encore. Car la pollution nucléaire se compte en centaines, en milliers d'années, selon les radionucléides, tels que nous l'avons entendu sur Parole commune radioactive sur les conséquences écologiques de la catastrophe de Fukushima. Alors, face à l'enfer, une seule réponse est possible, sortir du nucléaire. Sortir du nucléaire pour arrêter les déchets dont on ne sait que faire. Sortir du nucléaire avant qu'une nouvelle catastrophe se produise. Parole commune s'interroge et interroge nos invités, Anne-Marie, Bernard et Martial, sur la position face au nucléaire du Japon après la catastrophe de Fukushima, sur la position des pro-nucléaires de partout dans le monde, plus particulièrement en France, car on constate qu'autant au Japon qu'en France, les divorces sont complets entre les agendas politiques, les intérêts économiques, les échéances énergétiques et les impératifs humains et environnementaux. Bon, ben, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à vous. Je ne sais pas si Martial est
bonjour,
au téléphone.
Bonjour, oui, je suis là. Bonjour.
Bonjour, Martial.
D'accord, bonjour. Alors, effectivement, on pense que l'indépendance énergétique est depuis un siècle un des axes qui structure toute la politique économique et diplomatique japonaise. Alors, quelle était justement la place du nucléaire dans la recherche de cette indépendance énergétique, car les programmes de recherche sont lancés dès 1954.
Alors,
à qui les répond?
On pourrait dire que...
Anne-Marie.
Anne-Marie, oui. On peut dire qu'au moment de la catastrophe, le nucléaire représente au Japon 30% de la consommation électrique du Japon. Et du jour au lendemain, suite à la catastrophe, on arrête toutes les centrales nucléaires. Pour nous, ce qui est intéressant d'analyser, c'est comment est-ce possible sans que le Japon s'écroule au niveau production d'électricité, vie, je dirais, on commençait au Japon une vie de manière occidentale, donc avec une forte consommation d'électricité. On s'aperçoit, si on analyse les premiers moments après l'arrêt des centrales, que par la baisse de la consommation et des baisses qui portent sur des utilisations tout à fait, je dirais, absolument pas vitales de l'électricité, comme l'ensemble des distributeurs de boissons, alors là-bas ils en ont beaucoup à Tokyo, enfin dans les métros, comme l'ensemble des éclairages, une grande partie des éclairages publics la nuit, etc., comme la baisse effectivement de la climatisation dans les lieux, eh bien ça va permettre au Japon de passer cette étape. Malheureusement, ils ont laissé repartir un certain nombre de centrales depuis, mais passer cette étape sans qu'il y ait un effondrement total de l'économie du Japon. Et sans qu'il y ait non plus... Alors il y aura aussi dans ces temps-là un développement des énergies renouvelables et un peu plus de production d'électricité par le gaz et le pétrole, enfin le charbon. Donc on peut s'apercevoir, par rapport à ce qu'on nous dit toujours, on ne peut pas vivre sans nucléaire, ça on le pense uniquement en France, que dans une société riche, hein, on va parler dans nos sphères de population, ben c'est possible de trouver d'autres moyens de produire l'électricité sans pour autant, contrairement à ce qu'on nous raconte, ça aussi on a des éléments qui ont été... je m'inspire d'un texte de Bernard Laponche qui est assez connu dans la lutte antinucléaire et dans la réflexion autour des problèmes que ça pose, sans pour autant que l'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre soit notable par rapport aux émissions qui existent dans nos sociétés.
Martial ?
Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit. Je pense que, et aujourd'hui, 7 ans après, le Japon a toujours... maintenu sa baisse de consommation d'environ 10%, et il n'y a que 6 réacteurs qui ont été redémarrés malgré la volonté politique du gouvernement Abe, qui est un gouvernement nationaliste fort de droite. Et parce qu'au Japon, même si le pouvoir central décide de vouloir redémarrer les 42, il y a 42 réacteurs qui voudraient redémarrer, les autorisations de démarrage dépendent essentiellement des autorités locales qui sont soumises à la mobilisation et à la pression des citoyens qui refusent ces démarrages. Donc 7 ans après, ils n'ont réussi qu'à redémarrer 6 réacteurs. Et l'économie se porte tout à fait normalement. Il n'y a pas eu un blackout quelconque au niveau électrique. Or, c'est vrai qu'ils ont utilisé un peu plus de fossiles, mais c'est pas catastrophique pour cela. Si on voulait faire la même chose en France, ce serait sans doute un peu plus difficile parce qu'on a une production électrique d'origine nucléaire de 72%, mais je pense qu'on a des marges d'économie d'énergie électrique beaucoup plus importantes que n'a le Japon, pour une raison déjà essentielle, c'est qu'on exporte de 12 à 15% d'électricité, donc ça on n'est absolument pas obligé d'exporter de l'électricité, d'autant plus qu'on l'exporte la plupart du temps à perte puisqu'il y a une surproduction aujourd'hui sur le marché européen. Et d'autre part, on a la particularité en France, c'est le seul pays au monde d'avoir ça, c'est le chauffage tout électrique. Donc si on convertissait très rapidement le chauffage tout électrique dans d'autres modes de chauffage, on devrait arriver à faire à peu près 30% d'économie, ce qui est bien au-delà de ce que peut faire, ce qu'a fait le Japon. Donc 12% d'exportation, 30% d'économie d'énergie, c'est tout à fait électrique. Ça permet déjà d'avoir une idée des possibilités qui sont en France abordables rapidement.
Bernard ?
Oui, alors on nous dit que maintenant, il est avéré que le Japon n'est pas un très bon endroit pour avoir des réacteurs nucléaires. Je voulais intervenir juste pour signaler qu'hier, il y a eu un séisme de magnitude 5-6 qui n'a pas endommagé, dit-on, la centrale nucléaire de Shiman au Japon. Qui doit être en dessous de celle de, si on regarde une carte, Takahama. Et ils annoncent de fortes répliques prévues et l'article que j'ai sous les yeux dit que le Japon est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone qui concentre la majeure partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de la planète. Alors ce que je dis de cette façon, c'est que maintenant, après coup, on peut s'étonner que les Japonais aient lancé un tel programme de centrales nucléaires et que le Premier ministre actuel Shinzo Abe veuille absolument poursuivre le développement ou la réouverture des réacteurs ou en construire de nouveaux en plus. Et ça, c'est étonnant. Et je voulais dire aussi que est-ce que ça vaut la peine donc de prendre de tels risques, puisque vous l'avez dit avant, tous les deux, on peut vivre avec une relative sobriété sans vivre sous la menace des accidents ou des grandes catastrophes nucléaires dont on ne sait absolument pas quoi faire.
C'est justement la question qui nous faisait, qui nous apparaissait quand on préparait l'émission. Finalement, quand on réfléchit un peu, comment ça se fait que cette centrale nucléaire, entre autres de Fukushima, a été construite à un endroit où, fatalement, ça ne pouvait que être catastrophique s'il se produisait deux catastrophes naturelles, en fait. Celle du tremblement de terre, celle du tsunami qui a donné lieu à une catastrophe industrielle.
Moi, ma réponse, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Et on pense toujours qu'on prendra les précautions suffisantes. C'est ce que aurait dit d'ailleurs Anne Lauvergeon quand elle dirigeait Areva. Avec des EPR, ça ne serait pas arrivé. Oui, mais à chaque fois, il y a un nouvel incident qui n'est pas prévu. Enfin, c'est pas possible, justement, par définition. Et l'ampleur de la catastrophe est telle, donc là, je fais plus l'avocat du diable, que ça vaut vraiment pas la peine. Enfin, tous les calculs dits de probabilité sont absolument stupides quand on voit l'énormité des dégâts. Et en plus, on ignore un certain nombre de catastrophes.
Anne-Marie,
j'aurais envie de rajouter que, bon, en France, on n'a pas eu d'accident nucléaire aussi grave que Tchernobyl et Fukushima. Mais en France, je pense qu'il se passe des incidents à bas bruit. C'est-à-dire que la presse mainstream, la presse que tout le monde entend, la télé, la radio, ne parle pas du nucléaire. Si on veut s'informer sur le nucléaire, il faut aller vers les sites spécialisés sur Internet. Et à ce moment-là, souvent, c'est les gens qui vont être intéressés par cette question, qui vont se mobiliser, qui vont y aller. Donc on a l'impression qu'il y a une information qui ne circule pas. Et en France, par exemple, autour de la Hague, on a une pollution radioactive la plus importante du monde, extrêmement grave. Mais comme c'est une pollution invisible, à la limite, si on fait pas des analyses, si on n'alerte pas, eh ben ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas une explosion. Donc l'explosion, ça c'est visible, c'est difficile à cacher. Mais la pollution ambiante radioactive dans certaines régions de France, et spécialement à La Hague, est catastrophique.
Martial, un commentaire ?
Oui, moi j'ajouterais, bon, pour parler de la Hague et parler des centrales, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même en dehors des incidents ou des accidents, il y a d'ailleurs eu deux accidents quand même importants en France, hein, à Saint-Laurent-des-Eaux, sur les graphites gaz en 69 et 80, avec rejet de plutonium dans l'environnement et dans la Loire. Mais pour revenir à la Hague, c'est un rejet permanent avec des autorisations, hein, c'est tout à fait réglementaire, de tritium, de carbone 14, de krypton 85, et aussi dans des effluents liquides, parce que l'astuce, je dis ça ironiquement, la France a signé un traité qui interdit de rejeter des déchets nucléaires dans la mer. Mais ce traité ne prévoyait pas qu'on puisse les faire s'écouler dans de l'eau à partir d'une canalisation. Donc on a fait une canalisation qui se jette directement dans la mer et qui rejette des effluents radioactifs de façon continue. Ça se propage jusque dans la Baltique sans problème. Voilà, donc ça c'est une réalité que beaucoup de monde, pratiquement tout le monde ignore, enfin dans le grand public. Pour les centrales, toutes les centrales qu'il y a partout en France, c'est la même chose. Il y a des autorisations de rejet et on ne parle d'incident que quand il y a dépassement de ces autorisations de rejet. Mmh.
Alors, moi, je voudrais revenir sur... maintenant, Je voudrais revenir au Japon. Et est-ce que quelqu'un peut nous dire, bon, maintenant, comment ça se passe, quelle est la situation, et surtout, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les mentalités, que ce soit dans la classe politique et également parmi la population?
Moi, je veux bien répondre.
Martial, oui.
J'ai accompagné Naoto Kan, qui est venu en France là, du 12 au 16 mars, et bon, on a beaucoup échangé. Dans la population, donc il y a une volonté du gouvernement et des autorités de faire en sorte que de normaliser tout, d'imposer aux populations qui ont été éloignées à cause de leur activité, de leur imposer le retour. Et il y a 10-15% maximum des gens là où on autorise le retour qui rentrent, et en général ce sont les personnes âgées qui rentrent, très très peu de personnes jeunes. Donc il y a absolument aucune acceptation du nucléaire de la part de la population. Par contre, au niveau du gouvernement, il y a la volonté de continuer le nucléaire. Alors la situation exacte à Fukushima, on la connaît à peu près, il y a toujours des rejets permanents dans l'environnement. Il y a aujourd'hui 1 million de tonnes d'eau contaminée qui sont dans des citernes. Il y a des menaces de rejeter ça dans la mer, avec les pêcheurs en particulier qui tentent de s'y opposer. Tous les systèmes de filtration, Areva avait promis un système qui fonctionnerait, qui ne fonctionne pas du tout. Voilà, je pense qu'on est dans une catastrophe qui continue. La position exacte du corium, c'est-à-dire du combustible mélangé à tous les déchets, est mal connue. Il n'y a aucune possibilité d'aller vérifier parce que les robots qui y ont été envoyés, ils tiennent pas le choc. La radioactivité est tellement forte l'idée qu'on puisse trouver des solutions dans 30-40 ans, Naoto Kan disait plutôt dans un siècle ou deux, et encore, c'est peut-être même pas sûr.
C'est pas franchement rassurant. Bernard.
Oui, je voulais juste dire, pour aller dans le sens de Martial, que c'est vrai que TEPCO essaie de maîtriser les installations. Alors, comme vous le savez, il y a trois cœurs qui ont fondu, comme on dit, ce qui est la catastrophe absolument majeure. Et il faut absolument refroidir les cuves des réacteurs 1, 2 et 3. Et ils injectent régulièrement de l'eau douce. Mais cette eau douce, bien sûr, parce qu'ils essaient de maintenir à la température en dessous de 30 degrés. Et cette eau qui est injectée, elle s'écoule dans les sous-sols du bâtiment. Et on ne sait pas trop où elle va se mélanger aux eaux souterraines, enfin les infiltrations, et ils essaient.
Continue.
Ah bon. Ils essaient de limiter donc la dispersion de l'eau. Alors une partie va être filtrée, mais pour maîtriser ces rejets, c'est là qu'ils ont eu l'idée géniale de faire un mur de glace dont on se demande comment, enfin d'abord avec quelle énergie on refroidit, on fait un carottage un peu partout et on essaie d'empêcher l'eau de s'écouler, mais c'est absolument gigantesque. Alors en plus, il faut faire subir un traitement aux eaux qui vont s'en aller. Et alors ensuite, ils essaient de retirer le césium, le strontium, et il y a sans doute beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas, Martial peut-être nous le dira, si on peut... On peut aussi enlever du tritium. Tout ce que je sais, c'est que au début de la catastrophe, c'était Areva qui s'était proposé de mettre en place un système de filtration qui a coûté, qu'ils ont vendu très cher et qui n'a pas marché d'ailleurs. Et voilà, on en est là. Enfin, on en est là. Alors le problème aussi, c'est que si cette eau, elle va dans le Pacifique, comme ça a été d'ailleurs plus ou moins annoncé par un responsable de l'IRSN en France, qui s'appelle Monsieur Charles, je crois, il n'y a pas tellement le choix. Donc l'eau, même, il faudra vider un peu tous ces récipients, et qui sont nombreux. Mais tous ceux qui ont fait un petit peu de biologie, ils savent que ça va se concentrer dans la chaîne alimentaire, et on ne sait pas ce que font les pêcheurs de leurs poissons.
Martial ?
Oui, bah, le million de tonnes d'eau contaminée, c'est essentiellement tritium, mais bon, il y a d'autres... Il y a d'autres polluants radionucléides. Et le tritium, bah, pour l'instant, ils n'ont aucun moyen technique pour le récupérer, sauf à attendre. Mais la période est de 12 ans, donc ça veut dire qu'au bout de 12 ans, il n'y en aura que la moitié qui sera désintégrée. Donc ce sera encore extrêmement polluant. Donc c'est un truc sans fin, d'autant plus que, comme Bernard vient de le dire, il faut continuer à refroidir les réacteurs. Et donc on produit toujours de l'eau polluée, on a toujours de l'eau polluée à stocker. C'est à un moment donné, les limites du stockage seront là. Et c'est d'ailleurs pour cela que la direction TEPCO essaie à tout prix de vouloir rejeter dans la mer ces eaux radioactives.
Alors on voit que pratiquement tout de suite après la catastrophe de Fukushima, que Laure a raison d'indiquer que c'était une catastrophe industrielle construite par l'homme lui-même, par la mise en place de l'énergie nucléaire. Et il y a un retour lent à l'énergie nucléaire. Et notamment, Bernard, quand on discutait avant l'émission, tu voulais nous faire lecture d'un texte concernant justement cette ouverture, les conséquences de cette ouverture des réacteurs, actuellement 7, depuis 2011.
Bon, moi, j'ai compté 6 réacteurs réouverts. Le premier, d'après d'ailleurs mes notes, c'est plutôt en août 2011, ce qui m'a étonné moi-même en relisant. Je ne pensais pas qu'ils en avaient remis en fonctionnement un si tôt. Mais le suivant, ça a dû être en 2015.
Celui de 2011, il l'avait remis ponctuellement en fonctionnement, mais il a été arrêté juste après. Parce qu'il y a eu 2 ans sans aucun réacteur en fonctionnement.
Alors, pour ne pas rentrer dans des considérations trop techniques, il faut savoir qu'au Japon, il y a une partie des réacteurs qui sont sur le modèle français à eau pressurisée et d'autres sont à eau bouillante, comme celui de Fukushima. Et ceux qui sont à eau pressurisée peuvent fonctionner avec notre combustible génial qui s'appelle le MOX, qui, alors ça c'est ce qu'on dit en France, on a trouvé presque un truc éternel et sans fin, c'est un minerai super abondant, il suffit de retraiter ce qu'on a comme déchets et on refait du combustible. Alors le combustible MOX, ça veut dire c'est un mélange d'oxyde, de plutonium et d'uranium, et ce combustible, nous le vendons aux Japonais. Et le dernier, enfin alors d'après mes notes, le dernier convoi est parti de Cherbourg le 5 juillet 2017. Il est arrivé le 21 septembre au Japon. Je pensais à Takahama. Actuellement, il y a 2 réacteurs en fonctionnement. Et certains disent que Takahama, c'est en face de la Corée du Nord et qu'il y a un problème entre la Corée du Nord et le Japon et que M. Shinzo Abe serait un petit peu paranoïaque. Enfin bref, ça laisse entendre quand même que l'industrie nucléaire a à voir avec l'industrie militaire. Mais justement, je voulais vous lire un article du Télégramme, donc le journal de Breton, qui date du 22 juillet 1999, pour qu'on se rende compte de ce que c'est que l'industrie nucléaire ou atomique. Alors, je vous lis ce texte parce que je pense qu'il dit beaucoup de choses sur ce qu'est l'ordre atomique que nous essayons de combattre avec nos faibles, très faibles moyens. Alors, l'article s'intitule « MOX, cap sur le Japon sous haute protection ». Le premier transport maritime de combustible nucléaire recyclé MOX de la France vers le Japon est parti hier de Cherbourg, Manche, après avoir mobilisé depuis plus d'une semaine un important dispositif de force de l'ordre dans le Nord Cotentin. Le Pacific Teal, navire de la compagnie britannique PNTL, filiale transport de la British Nuclear Fuels, BNFL, a quitté le port de commerce de Cherbourg hier en fin d'après-midi avec à son bord 5 emballages de MOX, un combustible contenant des oxydes d'uranium et de plutonium. Le bateau doit faire route vers le Japon en compagnie d'un autre navire PNTL, le Pacific Pintel, chargé de MOX en provenance de Barrow, Grande-Bretagne. Le MOX servira à l'alimentation de 2 réacteurs nucléaires de compagnies japonaises d'électricité qui se sont engagées dans une politique de recyclage du plutonium en vertu de contrats signés avec la BNFL et la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, COGEMA, Oui, en ce temps-là, ça s'appelait Kojima. C'est devenu Areva et maintenant c'est Orano. Enfin, ça, c'est pas marqué dans le texte, mais je le précise. Afin de se protéger contre tout risque de vol ou de sabotage, les deux bateaux sont équipés de canons de 30 mm et embarquent à leur bord des hommes de l'UKAEAC, la Force britannique de sécurité nucléaire. Des mesures de sécurité draconiennes avaient également été appliquées sur Terre lors du transfert du MOX de l'usine Kojima de La Hague au port de Cherbourg via le terminal ferroviaire de Valognes. À raison de 4 convois, dont 3 nocturnes entre le 12 et le 19 juillet, les 8 tonnes de MOX contenant environ 200 kg de plutonium, le tout conditionné pour le transport en 5 conteneurs de 90 tonnes chacun, ont été acheminés par la route sous l'escorte de CRS, de gendarmes et avec appui d'un hélicoptère de la gendarmerie. Entreposés sur le port de Cherbourg depuis le 19 juillet, les emballages de MOX ont été gardés nuit et jour par un escadron de gendarmerie mobile, des policiers du RAID et du GIPN, tandis que la zone maritime était quadrillée par des commandos de marine. Voilà, je vais en rester là. Mais c'est pour dire quand même que c'est pas du tout du transport de bois pour alimenter un poêle à bois.
Non. Martial, vous avez une réaction avant qu'on fasse une pause musicale ?
Je vais peut-être être un peu long, je suis désolé, mais l'histoire du MOX avec le retraitement, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que deux pays qui continuent le retraitement, c'est la Grande-Bretagne et la France dans le monde. Tous les autres ont arrêté. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à La Hague, on a retraité des combustibles usagés japonais dans les années 90 et au début des années 2000. Et de ce fait, il y a en stock à La Hague 20 tonnes de plutonium qui provient de ces déchets, de ces combustibles usagés japonais. Et ils doivent normalement retourner au Japon. Ce qui pose un énorme problème parce que le Japon, du fait des traités qui ont été signés en 45 après la défaite, ne doit pas se réarmer, ne doit pas avoir de bombes atomiques. Or, à partir du moment où ils peuvent disposer d'un stock de plutonium énorme, ils pourraient, surtout que c'est pas de la théorie ce que je raconte, là, c'est que de la part du gouvernement Abe, il y a dans le gouvernement Abe, il y a des gens qui sont tout à fait favorables à un réarmement du Japon, y compris avec une bombe atomique. Vous voyez ? Et donc ces 20 tonnes de plutonium qui doivent retourner au Japon, pour l'instant, il y en a quelques centaines de kilos, comme Bernard vient de le raconter, qui retournent sous forme de MOX. Mais le reste, c'est un véritable problème, y compris pour la France, puisque normalement, la France ne peut pas conserver. Il y a une loi en France qui interdit de conserver des matières nucléaires étrangères, des déchets de pays étrangers en France. Donc, ils devraient retourner là-bas, avec tous les problèmes que ça pose dans le transport et dans l'utilisation qui pourrait être faite de ce MOX pour la prolifération nucléaire, la bombe atomique. Voilà, c'est donc quelque chose d'énorme, et je crois que ce qui est absolument important en France, c'est qu'on arrête le retraitement, comme en Grande-Bretagne. Ça ne sert à rien, ça coûte cher, ça pollue, et la seule justification, c'est la fabrication du MOX, qui est un combustible qui coûte plus cher que l'uranium naturel, qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre dans les centrales nucléaires. Il y a une émission de neutrons bien supérieure, donc il faut contrôler beaucoup plus. Et rien ne justifie cela, si ce n'est que ça permet d'éviter de considérer le plutonium comme un déchet. Et à ce moment-là, c'est une matière valorisable de valeur nulle dans les comptes d'EDF, et ça évite à EDF d'alourdir son déficit budgétaire et sa dette, qui est déjà, au moins de 37 milliards, et pour certains, disent même beaucoup plus, peut-être le double.
Martial, on va faire une pause musicale, deux petites minutes, et on vous reprend tout de suite.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Voilà, vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3. C'est dans le cadre, nous sommes dans le cadre de la semaine autour de Fukushima. C'est une cause commune, comme on dit.
Une parole commune.
Une parole commune, voilà. Et nous sommes avec Bernard et Anne-Marie du comité.
Du collectif.
Ah ben j'y tiens à mon comité, hein. Du collectif contre l'ordre nucléaire
et nous
atomique. Tu m'as dit nucléaire tout à l'heure. Et Martial Château qui est au téléphone et qui est de sortir du nucléaire et nous parlons de la politique nucléaire au Japon et en France.
Et nous avons pu lire dans un site du gouvernement français. Qui s'exprime sur la politique énergétique japonaise suite aux décisions du parquet japonais de suspendre la mise en service d'une centrale au Japon. Et il dit, je cite, « Les chemins vers un mixte énergétique à l'horizon 2030 à peu près équilibré entre nucléaire, énergie renouvelable, charbon et gaz restent compliqués. » Introduisant un facteur d'incertitude quant à la possibilité pour le Japon de respecter les engagements pris dans le cadre de la COP21. Alors, cette citation du gouvernement français, il nous parle d'un côté des mix énergétiques du Japon, c'est-à-dire la place que le nucléaire va continuer à occuper au Japon, mais aussi nous parle beaucoup de la politique énergétique et de nucléaire en France. Anne-Marie.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'un des gros arguments de la politique nucléaire, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre. C'est présenter le nucléaire comme une énergie propre parce qu'elle ne dégage pas de CO2. Alors, bon, déjà, on pourrait se poser la question de base là-dessus parce que la construction d'un EPR, la construction de centrales, les transports de matières radioactives, on a entendu encore les bateaux qui partent avec du... Enfin bon, tout ça, ça m'étonnerait que ça se produise sans produire de CO2. Mais admettons, peu importe, qu'est-ce qu'on prend comme risque sur les populations, par exemple françaises, puisqu'on est en France? On prend le risque d'accidents dramatiques, de régions entières inhabitables. Pourquoi? Pour produire de l'électricité. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine mal la vie sans électricité, mais on sait qu'on en gâche énormément et on est à la veille, on est dans les 10, 20, 30, on aura un autre accident aussi grave que Fukushima, que Tchernobyl, etc. Il peut être ailleurs, il peut être chez nous, parce que chez nous, il y a une densité de centrales très importante. Et le matériel, comme je pense beaucoup le savent, est vieilli. Et donc, les risques d'accidents sont plus importants. Puis on pourrait voir dans l'organisation du travail à l'intérieur de EDF que ça aussi, ça peut entraîner un accident grave, une pollution permanente. Et donc, qu'est-ce que nous souhaitons pour vivre? Est-ce que le plus important, c'est... Alors, la lutte contre les gaz à effet de serre, bien sûr, est importante. Mais l'électricité joue un rôle infime par rapport à la quantité de transport, par rapport à la consommation industrielle et la production industrielle de gaz à effet de serre. Bon, on n'a qu'à regarder la circulation dans nos villes, autour de nous, sur nos autoroutes. C'est là que ça se passe, la production de CO2. Je ne parle pas des avions, mais enfin, il faudrait en parler quand même. C'est fondamental. C'est là que ça se passe. La quantité d'électricité produite par fossiles ne peut que rajouter une petite quantité de CO2. Or, on peut imaginer un développement des énergies renouvelables qui, elles, produisent beaucoup moins de CO2. Même si elles produisent, toute fabrication produit du CO2, il ne faut jamais oublier ça. Mais on sait qu'en France, on a pris une option, une seule, et c'est l'État français qui l'a prise, c'est de produire de l'électricité nucléaire et de mettre tous les instruments de la recherche sur le nucléaire. C'est une catastrophe parce que aucun moyen financier, aucun moyen de recherche n'est orienté vers ailleurs de la part de l'ensemble des personnels décisionnels. Quoi.
Bernard ?
Oui, non, mais par rapport à cette politique, il faut rappeler que, puisque Martial a évoqué le premier accident de Saint-Laurent-les-Eaux, en 1969, et cet accident a servi de prétexte, on pourrait dire au contraire, plutôt que de ralentir un programme nucléaire, c'est à partir de là qu'on a décidé de se lancer dans la construction, je ne sais plus combien, peut-être d'une centaine de réacteurs de style Westinghouse, là, à eau pressurisée. Et donc ça, c'est le grand programme lancé en 1974, mais annoncé par la commission dite Péon, c'est-à-dire pour une électricité d'origine nucléaire. Et comme ils savaient que c'était surdimensionné et que c'était malgré tout les gens qui avaient l'appareil d'État sous la main, c'est là aussi qu'on a décidé d'un programme de construction de logements avec peu d'isolation et du chauffage électrique dit intégré. Ce qui est c'est assez hallucinant et que personne, c'est là que ça pose un problème sur ce qu'on pourrait appeler la démocratie aussi, que personne n'ait pu s'opposer à cette folie. Et on a continué en sachant bien de quoi y retourner. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que tout réacteur fabrique du plutonium. Quelle que soit la manière dont on s'y prend, qu'on mette du MOX ou n'importe quoi, on fabrique du plutonium. Et bien sûr, d'autres déchets dont on ne sait quoi faire. Alors bien sûr, en bout de chaîne, maintenant, on veut nous imposer le stockage à Bure. Et toujours en procédant d'une manière hypocrite, c'est-à-dire qu'on dit on fait un laboratoire et ainsi de suite, et puis après on dit c'est là, on a investi et on le fait. Et par ailleurs, ceux qui ont le pouvoir de faire tout ça nous disent ça n'est pas politique, ça ne doit pas dépendre d'une position politique, c'est technique, c'est scientifico-technique, c'est la science, et donc taisez-vous, c'est effrayant, pour moi c'est effrayant.
Martial ?
Oui, moi je voudrais compléter par une actualité qui est criante, c'est la loi, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en débat actuellement. Il y a un débat public et si on écoute les interventions des représentants d'EDF ou de RTE, surtout EDF, il est évident qu'ils mettent la priorité à la lutte contre l'effet de serre. Et en prenant le risque de maintenir des réacteurs vieillissants, etc., et le risque d'accident. C'est un choix délibéré de leur part. Alors, C'est surtout EDF, parce que quand on regarde, il y a RTE, réseau de transport d'électricité, on fait 5 scénarios. Eh bien, il y en a certains qui, on peut ne pas être d'accord sur les délais, etc. C'est évident parce que sa sortie est trop lente. Mais le scénario Watt, il prévoit seulement 8 gigawatts en 2035 au lieu des 63 qu'on a aujourd'hui en nucléaire, et avec une petite augmentation d'utilisation des fossiles, donc augmentation du gaz à effet de serre. Et bien ce scénario-là, il est pas pris en compte quasiment dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, n'est absolument pas mis en avant, etc. Les deux scénarios qui sont mis en avant, c'est le scénario ampère et le scénario volt, et ce sont deux scénarios qui privilégient la réduction de CO2, donc de gaz à effet de serre. C'est une volonté délibérée de maintenir le nucléaire contre vents et marées, en dépit des risques d'accidents. On ne parle pas des déchets dans cette PPE. Les déchets, on n'en parle pas. L'origine de l'uranium, on n'en parle pas, parce que ça c'est aussi 100% de l'uranium est importé. Mais ça semble pas un problème pour discuter de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, donc c'est des choix délibérés de la part de nos politiques, et c'est vraiment un scandale.
Oui, je voulais juste pour...
Bernard.
Oui. C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'argument de l'indépendance énergétique et du kilowattheure pas cher. Et maintenant, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre, et spécialement le CO2. Moi, à titre personnel, je vais engager personne d'autre. Je considère que, en gros, le CO2, c'est la vie, et c'est pas du tout le cas du plutonium et de tous ces déchets. C'est-à-dire que, malgré tout, il faudrait qu'on repense à la synthèse, à la chlorophylle, etc., à la photosynthèse, et la possibilité de transformer le CO2 en éléments vitaux pour nous. Alors, ça veut dire avoir des arbres, par exemple, des plantes.
Mais en même temps, comment on peut expliquer l'intérêt qui peut avoir les gouvernements français à motiver le gouvernement japonais à continuer à développer ces centrales nucléaires? Est-ce que c'est une façon de soutenir les lobbies du nucléaire et EDF dans l'expansion du marché énergétique?
J'allais relire un texte que j'avais écrit. Enfin,
veux bien essayer de répondre si.
Ouais, enfin, je,
Bernard
oui,
aussi.
Oui, mais au moment de la catastrophe, le Japon, il est tout simplement un partenaire clé de l'industrie nucléaire française. Il représente 7% de l'activité d'Areva, soit 650 millions d'euros, plus 4,5% du carnet de commandes du groupe français, leader mondial du secteur. D'une manière générale, les prestations assurées par Areva au Japon s'observent à tous les échelons du modèle intégré défendu par l'industriel français. En amont, celui-ci fabrique du combustible nucléaire dans l'usine de Tokai. Il est également étroitement associé à l'aval du cycle nucléaire et aux opérations de retraitement des combustibles usés du Japon. Associé à JNFL, il a procédé à un transfert de technologie dans le cadre de la construction de l'usine de Rokkasho-Mura, dont les ultimes tests de mise en service se déroulent actuellement. Autre chose, il y avait longtemps le partenariat sur les réacteurs dits de quatrième génération, dont l'exemple bien connu, c'était Superphénix en France. C'était mon juge. Je viens d'apprendre que c'est définitivement fermé, mais il y a des accords signés qui sont signés en 2017. À l'époque, c'est Ségolène Royal qui est là, avec les Japonais. Et entre autres, il est question de faire des recherches encore autour d'Astrid et ce genre de réacteurs. Et puis, il y avait le désir de faire un réacteur plus robuste et moins cher que l'EPR, c'était Atmea. Et je pense qu'il y a des sociétés comme justement Mitsubishi et JNFL dont j'ai parlé, Japan Nuclear Fuel Limited, qui devaient participer au nouvel Areva, qui doit peut-être être Orano maintenant.
Martial ?
Oui, je crois que la catastrophe de Fukushima a cassé le renouveau du nucléaire qu'il y avait au début des années de fin 2011, là, tout ça, il y avait des projets de centrales, il y a beaucoup de pays qui ont renoncé, et le nucléaire est sur une phase décadente d'un point de vue mondial, hein, même s'il y a encore quelques réacteurs qui sont mis en service. Et donc l'industrie française et le gouvernement qui veut la maintenir à flot a besoin d'appui étranger. Si le Japon, qui a arrêté quand même sur les 54 réacteurs, il n'y en a que 6 qui sont en service, donc il y a un rétrécissement du marché, fait que c'est plus une énergie d'avenir, donc ils essaient d'inciter un certain nombre de pays à relancer ce marché. Il faut bien voir aujourd'hui que depuis avec la catastrophe de Fukushima, le cours de l'uranium a été divisé par 3. Et tous les projets d'investissement qu'avait Areva dans des mines, même si il y avait de la fraude aussi, parce que je pense que on a toute la période à de l'Auvergeon, ça a été des bagouilles financières et de l'escroquerie grossière. Ça n'empêche qu'un certain nombre de mines, comme celle d'Imouraren, qui était normalement la plus grande mine du monde, qui allait être mise en service, etc. Eh bien, aujourd'hui, cette mine, elle est quasiment fermée. Il n'y a plus d'espoir de la mettre en service. Et d'année en année, comment dire, dans les comptes d'Areva, cette mine était à l'actif. Et on gomme ses actifs grossièrement d'année en année aux alentours de 300 millions par an. Pour ne pas que ça fasse trop, ça se voit trop, on fait ça progressivement depuis 2-3 ans. Et c'est bien la preuve que, si vous voulez, Areva est en situation de quasi-faillite, hein, même s'il a été recapitalisé par l'État français pour 4 milliards et demi. Cette recapitalisation ne sauvera pas Areva de la faillite, parce que derrière, ben, le nucléaire est en bout de course, c'est la fin, même si il résiste encore et on peut encore avoir un accident, d'autant plus que on supprime des emplois. Supprimer des emplois sans fermer de centrale, c'est extrêmement catastrophique, parce que ça veut dire qu'on va rogner sur la sécurité, sur la sûreté, et le risque d'accident est d'autant plus grand. À La Hague, c'est en particulier vrai, puisqu'il y a une usure prématurée, et on a supprimé plein d'emplois, y compris en privatisant aussi un certain nombre de services.
Oui, on va y venir. Est-ce que ça veut dire, avec tout ce que vous venez de dire là, Bernard, Anne-Marie, vous-même, Martial, est-ce qu'on peut dire que le lobby du nucléaire a du plomb dans l'aile, si j'ose m'exprimer ainsi?
Anne-Marie? Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas le lobby du nucléaire, c'est l'État français. Parce que le lobby du nucléaire, ça voudrait dire que c'est des industries nucléaires, comme ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, ou des industries productrices d'électricité, comme ce qui se passe au Japon, qui font le siège de certaines instances de décision. En France, c'est beaucoup plus grave. On est dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça que le combat est difficile, parce qu'on est face à l'État. C'est l'ensemble des organismes de l'État, c'est les ministères. Bon, alors après, on pourrait citer, moi je suis pas capable, mais qui prennent ces décisions, comme vient de le souligner Martial, à travers le plan pluriannuel, etc. C'est pas un débat dans la société, c'est refusé comme débat auprès de l'ensemble de la population qui, elle, à mon avis, est renvoyée à un seul rôle, c'est de subir les conséquences sans avoir aucun accès aux décisions. Et la France a besoin de ça, l'État français a besoin de ça, et c'est ça qui donne cette prégnance et qui est assez terrorisant, parce que on est face à un mur, quoi, un mur très fort. On s'en aperçoit aussi à travers les violences qui sont mise en œuvre contre tous les antinucléaires. On a deux exemples récents, beaucoup d'exemples à Bure, où la répression est très violente, où les peines même auxquelles sont soumises les personnes qui n'ont fait rien de véritablement violent sont importantes. Les militants de Greenpeace qui ont investi une centrale juste pour montrer, pour mettre en valeur, c'est une alerte. l'accessibilité de zones dangereuses comme les piscines sont menacées aujourd'hui. Enfin, il y a eu un procès de prison ferme. Ils n'ont porté préjudice à personne, bien au contraire. Et bon, il va y avoir un appel. Je pense qu'il faudrait soutenir ces personnes. Mais on voit là qu'on est face à une force qui est très, très, très répressive.
Martial ?
J'ajouterais juste pour aller... qu'on a un Premier ministre, Édouard Philippe, qui est un ancien cadre dans la communication d'Areva. Donc, je pense que... Voilà, s'il est là, c'est que le nucléaire, c'est l'appareil d'État, ou l'appareil d'État, c'est le nucléaire. Je crois que les deux sont très imbriqués. Et puis, bon, derrière, il y a aussi la bombe atomique. Faut pas oublier que la bombe atomique, c'est la grandeur de la France. C'est le grand cocorico national. Et que la classe politique, pratiquement dans son ensemble, n'est pas prête à renoncer à cette soi-disant... poids de la France dans le monde. Or, je pense que si on abandonnait la force de frappe, ce serait un élan énorme vis-à-vis de nombreux peuples. Quand on sait qu'à l'ONU, il y a 122 États qui ont signé le traité d'interdiction des armes nucléaires, si au lieu de s'opposer à ce traité comme fait la France aujourd'hui, on appuyait ce traité et on allait vers le désarmement nucléaire, je pense que le poids de la France serait bien plus grand, le rayonnement de la France serait bien plus grand auprès de tous les peuples.
D'après ce qu'Anne-Marie vient de dire et vous, Martial, ça nous ramène au choix du nucléaire. Il y a un peu plus de 60 ans, et qui était, en fait, c'était le choix du nucléaire militaire et qu'il fallait passer par les nucléaires civils pour accepter le militaire.
Voilà.
On a fabriqué la bombe. Hein, on n'avait pas besoin de faire des centrales nucléaires pour fabriquer la bombe. Il y a des pays qui ont la bombe, qui n'ont pas de centrale. Enfin, on voit bien dans la politique internationale, hein, quand on lutte, quand les histoires avec l'Iran. Hein, la France a diffusé. Effectivement, c'est relié. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Moi, je me souviens au moment de la catastrophe de Fukushima avoir lu des textes de gens qui vivaient là-bas, de Français qui étaient installés au Japon, qui disaient qu'ils étaient horrifiés, ils vivaient avec leurs enfants et tout ça. Tout d'un coup, ils se sont sentis extrêmement menacés et ils disaient tout ça pour produire de l'électricité. Alors que la bombe, qu'on pense que l'armement nucléaire soit un danger énorme, je suis d'accord, on ne va pas rentrer, enfin, ça serait très lourd, ça serait une autre émission, hein, parce que c'est lié aussi à la géopolitique internationale. Mais quand même qu'on ait occupé la France, que la France soit occupée par 58 réacteurs, plus de nombreux lieux de recherche où il existe des petits réacteurs, plus la quantité de déchets dont nous ne savons que faire, et quand je dis nous, c'est toute l'industrie nucléaire qui ne sait que faire des déchets, à part un projet qui est extrêmement contesté et contestable, je pense que ça, c'est assez époustouflant. Enfin, je ne sais pas si on pouvait faire augmenter la conscience des gens autour de ça en France pour refuser cet état de fait.
Martial ?
Écoutez, pour faire prendre conscience aux gens, je pense que c'est d'essayer de développer des mobilisations, d'essayer de faire de l'information. Tous les moyens qu'on a peuvent être essayés, mais bon, c'est vrai que c'est quelquefois désespérant. Le samedi soir, on a passé le film La bombe et nous, qui est un film qui permet de réfléchir sur la bombe. Il y avait 42 personnes au Mans et peu de gens jeunes. C'est vraiment on a l'impression que la société est imprégnée de cette folie nucléaire et que peu de gens sont conscients de la réalité, du danger et ont encore envie de s'opposer à cela. C'est vraiment très inquiétant. Même quand on voit des accidents comme au Japon, il devrait y avoir une révolte de la population, et bien ça n'a pas eu lieu, même s'il y a majoritairement des gens qui sont contre le nucléaire. Bon, en France, on a certainement une majorité de gens qui sont contre le nucléaire, mais il n'y a pas de mobilisation suffisante pour faire pression sur le, sur le, sur les décideurs. Je pense que c'est là le nœud du problème. Il faut arriver à construire des mobilisations larges dans l'unité qui disent qu'il faut arrêter tout ça. C'est une urgence, c'est une nécessité. Et quand on aura arrêté tout, on aura de toute façon toujours à se poser le problème des déchets, puisque ces déchets, il y en a pour des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. C'est là que c'est affligeant.
Bernard, vous voulez intervenir ? Sinon, on fait une pause musicale.
Juste
tout de suite.
Pour dire que malheureusement, d'abord, il y a la dimension, comment dire, des représentations. La plupart des gens pensent qu'il y a une partie qui est technique, ce qui fait le cadre de vie. Enfin, quand on branche je ne sais quel appareil électrique ou le grille-pain, on ne peut pas penser que derrière, il y a toute une chaîne. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au minerai d'uranium au Niger, mais quand même qu'il y a des gens qui travaillent. Ça, on l'ignore. Il y a le champ dit du politique, le champ technique, le champ scientifique. Et en plus, puisqu'on parlait de la programmation la pluriannuelle de l'énergie, il y a des consultations, mais la plupart des gens savent ou imaginent qu'on ne tiendra pas compte, ça sera juste pour parler ou entendre une explication. Ça sera que ça. Donc, cette voie-là, enfin, on pourrait dire une voie réglementaire, légale, gentille et ordonnée, ça marche pas. Et d'autre part, bah, les autres, même les actions qui sont gentilles, à mon avis, de Greenpeace, ou éventuellement du réseau et tout, ça semble être des trucs d'hurluberlu. Et il y a toujours, effectivement, une espèce de propagande assez incroyable, où tout est inversé aussi, puisque moi, je viens de lire encore une fois que les antinucléaires lançaient des fatwas. Parce que je voulais me rechercher, enfin, voir ce qui avait été dit sur le lobby nucléaire, qui, effectivement, n'est pas tout à fait un lobby, comme le dit Anne-Marie. Et je crois que c'est en 2012 que le Greenpeace avait essayé de faire une cartographie des réseaux du nucléaire. Et tout de suite, ils ont été obligés de retirer des noms. Ils ont été censurés. Et ils ont parlé en face de fatwa. C'est-à-dire que souvent, on présente les antinucléaires comme étant aux commandes. C'est eux qui dirigent tout. Et si, et d'ailleurs, s'il y a un pépin, on va dire, alors vous, les écolos, vous n'avez rien fait. Ça, je l'ai déjà lu dans Le Monde une fois. Je ne sais plus sur quel accident, un autre, une pollution. Ah tiens, les écologistes n'avaient pas réagi à temps. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas désespérer les gens, mais c'est vrai qu'il serait temps qu'on pense qu'il faut, faut lutter contre la séparation et puis cette espèce de scientisme. Alors, une dernière chose à dire, c'est que c'est samedi, nous sommes allés à une espèce de colloque, c'était la science citoyenne. Ils ont critiqué, moi j'ai entendu critiquer les OGM. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien sûr, la pollution, et comme d'habitude, c'est Monsanto, et quand on est gentil, on dit Bayer, mais on ne parle pas des sociétés françaises. Et bah, sur le nucléaire, ça n'existe pas. On a l'impression que c'est un domaine typiquement réservé aux scientifiques. C'est eux qui pourraient dire quelque chose. D'ailleurs, je pense personnellement d'ailleurs que chez les antinucléaires, il y a beaucoup de gens qui ont une formation scientifique. Ça, il faut le dire.
On va se faire une petite pause musicale à nouveau, Martial. On vous reprend dans 2 minutes.
Je ferai une petite note un peu plus optimiste.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher
et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens qui étaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Que s'est-il passé? J'y comprends rien. Il y avait une ville, et y a plus rien, y a plus rien qu'un désert de gravats de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve, réveillez-moi. Réveillez-moi, réveillez-moi.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Nous sommes dans le cadre de la semaine autour de Fukushima, c'est la parole commune. Émission que nous avons donc préparée également avec Jenny, qui malheureusement ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Et nous recevons pour cette émission qui s'intéresse à la politique du nucléaire au Japon et en France. Nous avons donc Martial Château au téléphone, il fait partie de Sortir du nucléaire. Et nous sommes en studio avec Anne-Marie et Bernard, qui font partie du collectif Contre l'ordre atomique. Alors, c'est bien ça, je ne me suis pas trompée cette fois-ci. C'est génial, je recommencerai la prochaine fois.
Alors, donc, Martial.
Oui, Martial, vous vouliez intervenir, oui, donner peut-être une note un petit peu plus optimiste.
L'élément qui peut nous faire espérer aujourd'hui, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire que le prix du mégawattheure électrique ne fait que de continuer à augmenter, en particulier dans les constructions neuves, puisque pour le projet Hinkley Point, là, en Grande-Bretagne, le tarif qui a été à laquelle sera vendu payé le mégawattheure est de l'ordre de 115 euros. Or aujourd'hui, les derniers appels d'offres en ce qui concerne l'éolien offshore en mer est autour de 65 euros, c'est-à-dire presque deux fois moins que le prix du mégawattheure. Le prix de revient du nucléaire. La même chose au niveau du solaire photovoltaïque. Il y a eu un appel d'offres là qui a été en Inde, dans le sud de l'Inde. Alors, il y a évidemment plus de soleil. C'est peut-être plus difficile de comparer les prix, mais c'était passé à 31,5 dollars le mégawattheure. Alors que le nucléaire, même historique, c'est plus aux alentours de 50 dollars le mégawattheure. Donc, on est là dans une situation où le nucléaire ne va plus être rentable. Donc, il y a le danger, il y a la dangerosité et il y a l'économie qui font que le nucléaire devrait s'effondrer. Alors, comment faut-il faire pour que les politiques arrivent à comprendre ça? Parce que moi, j'ai rencontré quelques élus, ils sont encore sur des schémas qui sont complètement du passé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout au courant des réalités économiques. Ils pensent toujours que le nucléaire, ça permet d'avoir une électricité pas chère en France, etc., ce qui est complètement dépassé. Alors, peut-être qu'on aura quelque chose comme on a eu la métallurgie dans les années 80. C'était dans les années 80, il fallait continuer à produire de l'acier en grande quantité en France et en Europe. Et tout d'un coup, quand on s'est rendu compte qu'on allait droit dans le mur, eh bien, ça a été une vraie catastrophe. On a décidé de fermer en urgence avec une vraie catastrophe sociale, parce que fermer en urgence sans anticiper, c'est une catastrophe pour les gens qui y travaillent. Donc au niveau du nucléaire, on risque d'être confronté à quelque chose comme ça, pour imprévision totale, analyse complètement fausse d'un point de vue économique et sans prendre en compte évidemment ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire la dangerosité.
Alors, j'aimerais revenir sur la sécurité nucléaire, justement. Donc, on a parlé de Greenpeace assez longuement, qui a démontré à plusieurs reprises qu'il était possible d'investir le périmètre d'une centrale sans vraiment de difficultés particulières. Et il y a également des employés qui témoignent de leur inquiétude sur leur niveau de sécurité. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Anne-Marie, je crois que vous avez quelque chose à nous lire, un texte.
Je proposerais volontiers un extrait. D'un article,
oui,
témoignage d'un technicien du nucléaire. Hein. C'est un article qui est paru chez Bastamag. C'est un article de Nolwenn Weller hein, qui est paru le 23 janvier 2018, c'est-à-dire qui est très récent. Bon, je vais juste vous lire un petit extrait parce que je trouve, enfin, l'ensemble de l'article est très intéressant. Hein. Donc, si Kafka venait chez nous, il écrirait 2 bouquins par trimestre. Résultat, alors. Il décrit comment les EDF a changé sa gestion et son organisation, c'est-à-dire en supprimant à l'intérieur énormément de postes et en faisant appel pour les travaux ouvriers, pour les travaux de maintenance à des sous-traitants. Donc il écrit « Résultat de ces changements majeurs de gestion et d'organisation, l'installation s'abîme au niveau matériel comme au niveau humain ». Le secteur de la maintenance s'est complètement vidé. Cette activité est désormais assurée à 80% par les sous-traitants. Des tas de métiers ont été éliminés. Il n'y a plus un agent chaudronnier au sein d'EDF, alors qu'une centrale compte des dizaines de kilomètres de tuyaux. Ou alors, il fait autre chose que de la chaudronnerie. Il est chargé d'affaires dans les bureaux, par exemple. On manque à ce point de soudeurs qu'on est totalement dépendant des prestataires, quitte à ce qu'ils viennent se faire la main chez nous. Lors du dernier arrêt de tranche, ils s'y sont repris à 14 fois sur certaines soudures, raconte Louis, qui a l'impression de patauger dans l'absurde. Si Kafka venait chez nous, il écrirait 2 bouquins par trimestre, enfonce Louis. En cas de fuite sur un circuit, au lieu de la réparer, on envoie un agent de terrain qui doit cocher une case sur une feuille A4, qu'il garde avec lui et qu'il remet en fin de journée à son responsable. Toutes les 2 heures pour dire qu'il y a une fuite. Même chose pour une alarme d'incendie défectueuse, se désole Franck. On envoie quelqu'un toutes les 2 heures pour s'assurer qu'il n'y a pas d'incendie. Et il coche. Au-delà du désintérêt de ces missions et du mépris qu'elles représentent pour un salarié, le système n'est pas du tout sûr. Le gars peut très bien cocher la case sans aller vérifier. C'est déjà arrivé, note Franck. Il y a aussi un programme OEEI pour obtenir un état exemplaire des installations. C'était magnifique, ironise Jean. Ils ont décidé ça en 2005, réalisant que les installations s'abîmaient quand même. Chez nous, ils ont tout repeint. Même des trucs qu'il ne fallait pas peindre. Avec les mécanos, les électriciens et les chimistes, on était atterrés. On se demandait si c'était une blague. Comme si une centrale, qui est avant tout une usine, devrait ressembler à un salon de thé. Bon, l'article, dans son ensemble, est intéressant. Il souligne que intervient, et là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui s'y reconnaîtront aussi, c'est-à-dire les nouveaux managements, la façon de gérer le travail, la façon de traiter les gens qui travaillent par des procédés du ce qu'ils appellent le new management. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
lean management.
Merci. Et d'utiliser des sous-traitants, c'est-à-dire des gens qui vont venir, qui vont être exposés beaucoup plus gravement que les travailleurs qui sont parfois heureusement protégés par un certain nombre de conventions collectives. Va augmenter de façon forte les risques d'accident.
Martial ?
Oui, je crois que tout ce qu'on a pu découvrir sur l'EPR de Flamanville confirme tout cela. Je crois que, comment dire, la sûreté était basée sur des déclarations de fabrication des entreprises. Certifiait que les pièces étaient fabriquées suivant les normes en vigueur. Or, ce qu'on a découvert suite au problème de l'EPR, c'est que ça fait des dizaines d'années que les documents sont falsifiés. Et il y a des milliers de documents qui ont été falsifiés au niveau des critères de fabrication. Et donc, on se retrouve dans les centrales nucléaires avec des pièces de fonderies, en partie des aciers qui ont trop de carbone, qui sont fragiles. Donc on est obligé de conduire avec une certaine précaution les centrales. C'est devenu extrêmement dangereux. Voilà. Pour parler des soudures, la dernière avatar de l'EPR de Flamanville, c'est qu'il y a des kilomètres de soudures qui ont été mal faites. Parce que ça a été sous-traité, ça a été fait, et sans respecter les normes en vigueur. Voilà, on est là, et ça n'empêche que l'autorité de sûreté nucléaire, qui est normalement, entre guillemets, appelée le gendarme du nucléaire, eh bien, accorde les autorisations de mise en service. On est là, vraiment, devant la faillite totale d'un point de vue technologique, sûreté. Et pour parler de la sécurité... j'ai eu l'occasion de discuter il n'y a pas très longtemps avec un inspecteur de la SN. Je lui disais que j'étais inquiet avec les stocks de plutonium qu'il y avait à la Hague, les 60 tonnes. Il m'a dit, mais ça, c'est rien. Ce qui est plus dangereux, c'est les 100 cœurs de réacteurs qu'il y a dans les 4 piscines. Ces piscines qui sont à peine protégées par des murs en béton tout autour, mais qui, au-dessus, c'est un vulgaire toit d'hangar qu'il y a. Donc, quand on sait qu'il y a des drones qui ont circulé, on ne connaît pas leur origine, on peut imaginer le pire. C'est-à-dire que quelqu'un drone vienne déposer une charge explosive sur ses toitures et fasse des dégâts sur la piscine et que l'eau de la piscine s'en aille et qu'il y ait là, à ce moment-là, une montée de la température et une fusion de ces 100 cœurs de réacteurs qui sont dans les piscines de l'Ague. C'est valable aussi à côté de chacun des réacteurs. On a des bombes en puissance, comme ça, on a 19 centrales, donc 19 bombes en puissance, plus la Hague.
Bernard ?
Ah non, j'étais en train de repenser à la charte de l'environnement de 2004, parce que figurez-vous que la loi fondamentale, enfin la Constitution française, contient maintenant, outre la déclaration des droits de l'homme et la déclaration, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, nous avons une charte de l'environnement 2004. Et l'article 1er proclame « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
Eh bien, c'est une réussite.
Article 2 « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». Article 3, toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. Article 5, j'en dirai pas plus, mais je dis l'article 5, lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Bernard, est-ce que les personnes qui ont pensé au projet CIGEO à Bure, ils ont lu cette charte ?
Peut-être, oui, parce que le problème, c'est qu'on peut toujours affirmer quelque chose et au contraire, ça peut servir de paravent. Voilà, il y a ça. Et puis, on fait autre chose. Il y a quand même des gens qui peuvent dire une chose en sachant bien qu'ils feront le contraire.
Mais justement, je voulais revenir sur le problème des déchets et sur le problème qui est proposé, l'enfouissement de ces déchets à Bure. Anne-Marie.
On peut se poser beaucoup de questions sur la question des déchets. La question des déchets du nucléaire n'est pas résolue. Et je pense que pro-anti-nucléaire, qui que ce soit, le sait. Hein, c'est une réalité. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas le transformer en produit non nocif. C'est surtout ça. Parce que souvent, quand on dit on a une solution, on pense que peu à peu, ces déchets, ils vont disparaître, ils vont plus être dangereux. Or, ça, c'est pas possible, on sait pas faire, on n'a pas trouvé de solution. Donc, il y a un projet actuel. Alors, on entrepose actuellement énormément de déchets hein, en France. On est bien obligé. Martial a parlé des combustibles usés qui sont conservés dans des piscines à côté des centrales et à la Hague. Et on fait couler de l'eau pour que ça chauffe pas. hein, et pour que ça rentre pas en contact et que ça chauffe pas. Mais on les change, enfin, on n'a pas résolu. Donc le projet de CIGEO à Bure, c'est d'entreposer en très grande profondeur dans l'argile. C'est une hypothèse de travail qui est incroyable parce qu'elle n'a jamais été faite avant. On voulait le faire dans du calcaire, mais là on va dans l'argile, l'argile contient beaucoup d'eau. Donc là, il y a la question de la corrosion est énorme. Il y a énormément de problèmes. On ne sait pas. Alors, ce que disent les scientifiques, parce que ils savent, ils sont raisonnables, ils disent quand on a un projet industriel de cette ampleur. Hein, puisque c'est énorme, hein, c'est 300 km de galerie, enfin, faut imaginer la quantité. Ben, on fait un petit essai, en petit, puis on essaye, et puis on surveille, et on regarde. Là, c'est pas ça. On dit, on fait un laboratoire. Dans le laboratoire, on n'a aucun essai. Et on construit les galeries. On construit 300 km de galeries à 500 mètres sous terre. Donc, c'est quand même, faut des moyens, hein, ça se fait pas comme ça, ça coûte cher. Et tout ça, donc, sans aucun essai. On va installer ça en sachant que il y a beaucoup de problèmes qui se posent à partir de là. Il y a des recherches assez spécialisées et vraiment intéressantes sur la question. Et en sachant, et ça faut le savoir, quoi qu'on vous dise, c'est un procédé irréversible. On ne pourra pas revenir en arrière. On a prétendu qu'il y aurait une réversibilité. C'est un mensonge. Même les ingénieurs de l'ANDRA, mais ils ne disent pas tout fort quand même, ou pas à tout le monde, ils disent ça, c'est ce qu'on dit aux enfants. Nous sommes les enfants. Nous sommes des enfants qu'on amuse avec des rêves et en voulant les tranquilliser pour qu'ils s'endorment tranquillement. C'est totalement irréversible. On ne pourra pas revenir en arrière et donc pas trouver de solution à long terme. C'est-à-dire qu'il faudra surveiller pendant quelque chose comme 100 ou 200 000 ans, enfin, ça correspond pas à nos vies, quoi. Mais c'est l'ordre atomique. Ça, c'est l'ordre atomique.
Bernard ?
Qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus ? Je suis, moi, absolument consterné. Non, ce qui me concerne en plus, c'est que tout ça, c'est l'œuvre de l'élite de la nation, essentiellement. C'est vraiment la crème de la crème, les gens qui ont été formés dans les super grandes écoles, beaucoup polytechniques, pas mal normal sup aussi, et ils sont à l'origine de ça. Et on sait aussi que Marcel Boiteux, à l'époque, dans les années 70, quand des gens ont dit « et pour les déchets », il aurait répondu « il faut bien qu'on laisse un problème aux générations futures ».
C'est très gentil de sa part. Et Martial ?
Oui, ben, par rapport aux déchets, je pense que en Allemagne, avec la mine de Haas dans le sel, c'est un fiasco complet. Il y a des infiltrations d'eau et ils savent pas comment faire pour assainir la situation et récupérer les déchets. Au Nouveau-Mexique, c'était des déchets d'origine militaire, mais ça change rien au problème. Il y a eu un problème d'incendie avec dégagement de... Enfin, un conteneur qui s'est éventré avec dégagement de plutonium, et ça fait 3-4 ans que ils cherchent une solution pour essayer de rattraper le coup, mais ça ne marche pas. La volonté d'enfouir les déchets, c'est aussi un peu le lien avec le retraitement qu'on fait en France, parce que si on ne triait pas les déchets comme on le fait, c'est-à-dire en concentrant toute la radioactivité dans un faible volume, eh bien on pourrait utiliser ce qui se fait dans la plupart des pays aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on laisse les combustibles usagés en piscine pendant quelques années, le temps qu'ils refroidissent, et après on les met en conteneur à sec, ce qui permet de les stocker après en subsurface et de pouvoir les conserver en les surveillant. S'il y a un conteneur qui est défaillant, dans quelques dizaines voire centaines d'années, si c'est en subsurface, on pourra intervenir pour remplacer ce conteneur, trouver une autre solution, etc. Et puis si par hasard la science arrivait à trouver une solution, j'y crois pas trop, mais dans quelques dizaines ou centaines d'années, si les déchets sont en subsurface et qu'ils sont accessibles, on pourra les traiter. Or, les mettre à 500 mètres sous terre dans de l'argile, c'est vraiment quelque chose. On ne pourra pas les récupérer, on ne saura pas comment faire, ce sera trop compliqué. La réversibilité annoncée, ça m'a toujours fait rire, c'était annoncé pour 100 ans, pour quelque chose qui va durer plusieurs centaines de milliers d'années. Qu'est-ce que ça représente, 100 ans, par rapport à quelques centaines de milliers d'années? Ça veut dire, en clair, qu'il n'y a pas de réversibilité, je suis d'accord avec Anne-Marie là-dessus. C'est un calcul, cette histoire. histoire d'enfouissement, on cache sous le tapis, on cache à 500 mètres sous terre sous les déchets pour dire, ben voyez, on a trouvé une solution, donc on peut continuer le nucléaire. C'est cela, c'est une solution idéologique et non pas une solution technique.
Alors du coup, le débat public, est-ce qu'il a, il a sûrement sa place, mais il est quand même là aussi mis sous le tapis, non?
Oui, ouais, tout Martial. À fait. Le débat public, on a vu ce que ça donnait avec le PR, la consultation qu'a pu lancer l'ASN pendant l'été, où il y a près de 14 000 personnes qui ont dit qu'il fallait surtout pas donner un avis favorable à la mise en service de l'EPR à cause des calottes qui étaient trop chargées en carbone, eh bien l'ASN s'est assis sur le point de vue de 14 000 personnes. Donc ça n'encourage pas à s'exprimer, ou de toute façon, c'est causé toujours, on décide à notre façon.
Anne-Marie, un commentaire là-dessus également ?
Moi, je pense que l'ensemble des débats publics qui nous sont proposés sont là pour nous faire admettre ce qui a déjà été décidé. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pratiques, pas seulement sur le nucléaire, Et je pense que on voit actuellement quand même à Bure un mouvement assez fort et soutenu plus sur le local, très fort et très courageux, mais aussi soutenu plus généralement sur l'ensemble de la France et même dans les pays limitrophes et à l'étranger. Et je pense que il y a que ces mouvements-là qui d'abord permettent de faire connaître les personnes, les problèmes à l'ensemble de la population, et qui permettront peut-être, je suis assez optimiste moi par moment, non je suis pas optimiste, mais je pense que il faut alerter, et le plus possible et par tous les moyens qu'on trouve, pour arriver à ce qu'à un moment donné, il y ait des hésitations, au moins au niveau du pouvoir. Il faut savoir qu'on est face à un mur, mais ce mur aussi est lézardé. Martial parlait des problèmes économiques qui sont très importants aujourd'hui, et ça passe de moins en moins bien au niveau de la gestion d'EDF, Areva, etc. On peut dire aussi qu'au niveau technique, par exemple sur le projet Cigéo, on voit apparaître un certain nombre de choses, d'informations. Alors ça circule pas, les journalistes rediffusent très peu ces informations, mais elles existent, elles sortent. On voit au niveau d'EDF qu'un certain nombre de personnes écrivent de manière anonyme, parce que sans ça, ils perdraient leur travail. Mais quand même, il y a à l'intérieur de le directeur économique d'EDF, il y a 2 ans ou 1 an ou 2 ans, a démissionné. C'est un très haut placé, hein. C'est pas un...
directeur.
Bon, pas s'il était pas d'accord avec la politique pour une clé pointe pour installer des EPR en Grande-Bretagne. Donc on voit quand même qu'il y a des mouvements, et je pense qu'il faut pousser jusqu'à ce que, non pas des fissures dans les cuves s'ouvrent, mais des fissures dans les institutions s'ouvrent, et qu'on puisse rentrer des coins et faire arrêter un certain nombre de choses qui sont graves pour nous tous, quoi.
Moi, il Bernard. Me semble, oui, justement, il me semble que si c'était connu, cette charte de l'environnement 2004, on peut aussi utiliser le droit, parce qu'il y a des choses qui sont constitutionnelles ou anticonstitutionnelles. Alors encore faut-il le connaître et parler de, je sais pas, on parle même d'écocide ou de choses comme ça. On parle d'écocide, excuse-moi. Oui. Mais je trouve intéressant. Alors là, maintenant, je lis l'article 7 parce que c'était le sujet et qui me laisse perplexe. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et, alors attendez, c'est là que c'est intéressant, et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Alors on peut se dire, finalement, ça voudrait dire qu'on récupère un peu de pouvoir. Mais il y a la question des conditions et des limites définies par la loi. La petite contradiction.
Donc effectivement, on est en plein dans les vœux pieux.
Ah oui. Alors on s'est fait un peu attraper par les temps. Charles vient nous dire qu'il nous reste très peu de temps, mais on n'a pas pensé à présenter le collectif contre l'ordre atomique et sortir du nucléaire. Très brièvement, vous savez, une minute chacun. Qui commence ?
Qui est-ce qui commence ? Je sais pas. Bah, Martial, si vous voulez bien commencer.
Ben, Le réseau Sortir du Nucléaire, c'est une fédération de groupes locaux qui, comme son nom l'indique, a comme objectif la sortie du nucléaire, l'abandon du nucléaire. C'est une association dont le siège est à Lyon. Je vous invite à aller voir le site du réseau Sortir du Nucléaire. Vous aurez une foison d'informations sur les raisons de sortir du nucléaire.
Merci.
Et un appel à mobilisation et une information sur les mobilisations qu'il y a un peu partout en France.
Merci Martial. Et Anne-Marie ou Bernard qui...
Je viens parler du collectif contre l'ordre atomique. C'est un tout petit collectif qui s'est constitué autour de cette question-là. La question du nucléaire, mais aussi de l'ordre que ça nous impose dans toute la société et de tout ce que... tout l'encadrement policier, militaire qui va avec pour le nucléaire civil, bien sûr pour le militaire aussi. Et nous faisons partie d'un groupe plus large qui fédère un certain nombre de groupes antinucléaires qui s'appelle Arrêt du Nucléaire, ADN. Et je pourrais dire, je vais m'avancer, que c'est l'idée, il faut arrêter avant la catastrophe. Et pas attendre la catastrophe pour arrêter dans des conditions absolument terribles.
Vous avez un site où on peut vous retrouver ?
Alors, le ADN, on peut le trouver sur Internet, hein, Arrêt du Nucléaire ADN. Le CCOA a juste une adresse. Hein, nous, on fait des tracts, des informations, mais on a juste une adresse. Je n'ai pas mes lunettes, je ne peux pas la lire. Tu peux la lire, s'il te plaît ?
Contact contre l'ordre atomique, alors contre, tiré... l'ordre tout attaché, il n'y a pas d'apostrophe, tiré atomique, alors ATOMIQUE, @RISEUP, alors ça doit être riseup.net.
Bien, ben merci à vous trois d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup, Martial, d'être resté pendant toute l'émission au téléphone avec nous. On tâchera de vous recontacter pour éventuellement également une autre émission. Donc je rappelle que nous étions dans le cadre de la parole commune. C'est une semaine qui s'est créée autour de la catastrophe de Fukushima. Nous sommes intéressés à la politique du nucléaire au Japon et en France. Et nous avons donc reçu Anne-Marie et Bernard pour le collectif contre l'ordre atomique. Et nous avions donc Martial au téléphone pour sortir du nucléaire. Merci beaucoup donc à Charles pour la technique. Un grand merci à Nadège qui a été la coordinatrice de cette initiative. Et puis Gianni, merci aussi à lui qui nous avait aidé également à préparer cette émission. Et bonne écoute.
Au revoir.
Cause commune, radio active sur Fukushima Daiichi et le nucléaire.